Bienvenue sur le podcast Entreprendre autrement, présenté par Koboom. Notre objectif, vous inspirer et vous partager différentes façons d'entreprendre autrement. Chaque semaine, nous recevrons une ou un entrepreneur inspirant qui a osé entreprendre à sa façon. Asseyez-vous bien confortablement, on décolle dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
Bonjour et bienvenue à ce premier épisode hors série de notre balado-diffusion « Entreprendre autrement ». Donc, vous reconnaissez sûrement pas votre hôte habituelle, Catherine. En fait, c'est aujourd'hui Laurie Michaud qui vous parle en direct de chez Koboom et on a décidé pour cet épisode de faire une édition spéciale pour souligner le lancement de notre livre qui sort cette semaine, intitulé « Kobook ». C'est un livre qui raconte l'histoire de notre révolution d'affaires vers l'entreprise responsabilisée. Dans un premier temps, j'avais envie d'interviewer Catherine pour lui demander les raisons qui l'avaient poussée à vouloir écrire un livre sur l'histoire de son entreprise. Puis, dans un deuxième temps, on voulait vous donner un avant-goût des différents sujets qui vont être abordés dans le livre. Bref, on espère que cet épisode vous donnera envie d'en faire la lecture. Bonne écoute! Bonjour Catherine.
Bonjour Laurie.
Le rôle aujourd'hui, c'est les rôles inversés.
Oui.
Donc, c'est l'intervieweuse interviewée. On brisera pas, par contre, nos bonnes habitudes. Je vais commencer te demandant comment tu arrives selon un sport d'hiver.
Ah, comme le ski de fond.
Ski de fond?
Ouais, parce
Pourquoi?
Que je me sens pas dans des montagnes russes. Je me sens sur une longue lignée, puis il faut que je garde le même rythme pour arriver à la fin.
C'est bon.
Puis c'est cardio, tu sais. Ouais. Je me sens un bon sport en santé, mais pas trop d'altitude.
Parfait. OK, donc aujourd'hui, on est là pour parler du lancement du Kobook. C'est notre tout nouveau projet, le livre que tu as écrit cet automne. Donc, comme première question, en fait, je vais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur l'histoire de ton entreprise?
Quand on a changé de nom, on a fait le processus il y a exactement un an de dire comme, OK, on change de JPD conseil puis on veut s'appeler totalement quelque chose d'autre. Je suis partie au mois de novembre, justement, vraiment à ce temps-ci de l'année, faire une conférence en Belgique. Puis là, je revenais des conférences en Belgique, mon week-end de fête à Paris. Puis là, je revenais sur le vol de Paris à Montréal. Puis là, on avait eu, juste avant que je parte en Europe, le nouveau nom. Puis le slogan qui était Koboom, révolution d'affaires. On n'avait pas encore l'image, mais on avait comme le nom puis le slogan. Puis là, je le griffonnais dans mon livre parce que je faisais du journaling dans l'avion, tu sais. Trop peace yoga.
Puis, Catherine.
Puis là, totalement en fait avec moi-même. Puis là, je griffonnais, puis là, j'ai comme juste barré le... J'avais l'idée d'écrire un livre, puis j'ai barré le M, puis j'ai mis le K, que tu sais, sur notre page couverture, le fameux K. C'est vraiment un jeu de mots. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, Kobook, notre révolution d'affaires. Puis c'est vraiment en jouant avec les mots que j'ai eu l'idée d'écrire notre révolution d'affaires. Puis un gros coup de cœur dans le changement de notre nom. C'était vraiment ça. Puis c'est un projet que Jean-Pierre et moi, on s'était dit, oh, un jour, il faudrait écrire un livre. On dit ça depuis que je suis rentrée. On dit ça depuis 7 ans.
C'est le genre de projet auquel tu penses, mais
oui.
Si tu le commences pas, il se fera.
Exactement. Puis là, avec le changement de nom, on dirait que ça a comme émergé l'idée.
Cool. Donc, là, on sait, la révolution d'affaires, c'est autour de l'entreprise responsabilisée.
Oui.
Donc, si on fait un petit retour en arrière, est-ce qu'il y a eu un élément... Ça était quoi l'élément déclencheur, en fait, du virage vers l'entreprise responsabilisée?
Le virage. Jean-Pierre était parti dans le bas du fleuve. On est comme en avril-mai 2015. Pas 2015, 2016. Moi, je suis directrice générale depuis janvier 2016. Je déteste ce rôle-là. Je pense que ça faisait 3 mois que j'étais en rôle de directrice générale, puis je disais toujours comme, oh mon Dieu, faut que je trouve ma relève. J'étais comme, j'étais, tu sais, c'était un peu démoralisant, tu sais, j'avais comme 24 ans, puis j'étais comme, je vais trouver ma relève.
À ta retraite.
Je détestais le rôle de directrice générale. Puis Jean-Pierre, lui, était dans le bas du fleuve. Il a pogné une grosse grippe. Il était allé voir des clients. Puis il a fait en sorte... Bref, il est tombé tellement malade qu'il a été alité pendant 2-3 semaines. Puis ça s'est adonné en même temps que le G500, le gros événement organisé chaque année par le groupement des chefs, où pour la première fois... Je sais pas si c'est la première fois qu'il en parlait, mais aussi clairement de l'holacratie de l'entreprise libérée. Et là, j'ai comme eu un déclic. J'ai comme, oh mon Dieu, c'est tellement bizarre, cette chose-là. Honnêtement, je trouvais ça pas le fun, mais j'ai eu un déclic, j'ai dit, ah, je suis sûre que ma réponse en ce moment au fait que mon père est alité, qu'il me laisse tout seul avec l'entreprise, puis que moi, je déteste en plus le rôle que j'ai dans l'entreprise, se trouve là-dedans. J'ai vraiment eu un déclic, j'ai acheté des livres jaunes à tout le monde. J'ai dit, lisez ça, c'est ça qu'on va faire.
Okay, donc, gros déclic. On va expliquer justement qu'est-ce que l'holacratie pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient jamais entendu ce mot-là de leur vie.
Oui, holacratie, c'est un système qui a été fondé par un monsieur là, qui a fait, il a fait ça dans son entreprise, puis il a vraiment systémiser ça, vraiment, il y a un handbook, là. Vraiment, l'holacratie, il y a des règles, il y a des façons de faire des réunions. C'est vraiment un système qui existe. Que tu prends le manuel, tu le fais. Pas compliqué. Par contre, ce que je me suis rendu compte avec l'holacratie, le bémol de l'holacratie, c'est une recette. Puis il n'y a pas de recette miracle en management, mais je l'ai essayé. J'ai aimé certaines parties, mais je te dirais que 80% ne s'appliquait pas parce que ça ne fitait pas avec mes valeurs, ça ne fitait pas avec moi. Mais c'est un système qui permet quand même de comprendre comment une entreprise horizontalement gérée fonctionne.
Fait que finalement, on se rend compte dans le fond que c'était plus restrictif qu'autre chose. Mais oui. Ici, c'est supposé d'être libéré.
Oh mon Dieu.
Il y avait tellement de règlements que oui. Ça ne fonctionnait pas.
Puis il y a même deux philosophies. Tu sais, en France, on dirait que comme il y a un courant de l'entreprise libérée contre ceux qui sont dans l'holacratie. Tu sais, comme, okay, ils se font par...
Deux écoles de pensée.
Oui, vraiment, vraiment. L'entreprise libérée, c'est beaucoup plus une philosophie, tandis que l'holacratie, c'est vraiment un système. Donc, c'est vraiment deux choses qui vont, tu sais, comme l'holacratie s'inscrit dans la philosophie de pensée, tandis... mais l'entreprise libérée, c'est juste des principes, c'est des idées puis une façon de faire. C'est pas un système concret.
OK, donc rentrons dans le vif du sujet. Tu dis toujours, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, au cours de votre transition, ben, je dis votre parce que moi, en fait, j'étais pas là oui. au moment de tous ces changements organisationnels. Donc, au cours de cette transition, quelle a été, avec du recul, tu dirais, la plus grosse erreur?
La plus grosse erreur? Hey, mon Dieu, je m'étais pas préparée à ça. Je vais commencer par te dire... mes deuils que j'ai faits pour te répondre à ma plus grosse erreur. Les deuils que j'ai dû faire, c'est des deuils beaucoup humains. Donc, entre autres, tu sais, puis le deuil que je suis toujours pas remis, c'est la perte de mon amitié avec ma meilleure amie qui travaillait pour nous à ce moment-là. je suis vraiment émotive, mais ça, je te dirais, puis... mon beau-frère qui a quitté l'entreprise, mais que ça, c'est comme... Ça a super bien été, ça s'est bien fait, mais je dirais ma plus grosse erreur, c'est d'avoir sous-estimé la compréhension des gens par rapport à mon rôle d'entrepreneur là-dedans. Parce que comme directrice générale, j'étais vraiment en rôle de gestion. Quand j'ai pris ce changement organisationnel-là, j'ai pas expliqué aux gens que je... Ben, en fait, c'était pas clair ma vision. Je savais que je voulais aller là-dedans, c'était plus fort que moi, mais j'ai pas su mettre des...
Tu le voyais tellement que tu l'as pas partagé parce que pour toi, c'était trop évident.
Oui, exactement. C'était tellement intuitif, tu sais. Puis tout le monde... À l'interne, tu sais, moi, je parle tout le temps de mon intuition, puis j'ai vraiment de la difficulté à, quand j'ai quelque chose d'aussi intuitif, de pas suivre mon intuition. C'est plus fort que moi. Puis je te dirais qu'après coup, si j'avais su communiquer ma vision au jour zéro, puis je pense que maintenant... Ce que j'ai appris énormément, c'est de, avant de lâcher quelque chose à mon équipe, puis à vous, en fait, j'attends que ça soit verbalisable, je sais pas comment on dit ça, en mots. Donc, vraiment, pour...
Capable de le conceptualiser, pour que ce soit clair.
Exactement, puis transmissible, parce que on est une gang de gens qui aiment ça, le concret, qui aiment ça, savoir la raison.
C'est normal, tout le monde veut savoir.
Oui!
Tout le monde veut toujours savoir dans quoi ils s'embarquent exactement.
Exactement. Puis tu sais, comme, étant donné que ma vision était tellement claire dans ma tête, puis je pense qu'une des erreurs, puis c'est une erreur de débutant, je pense, tu sais, aujourd'hui, ce que je leur ferais, non, ma vision, maintenant, je suis capable de vraiment plus nommer, puis de dire comme, je suis pas encore prête à vous le dire, mais sachez que je travaille là-dessus. Puis d'être capable de dire, je vais vous le partager quand je vais être rendue, ça va être assez mature pour pas créer du chaos chez vous. Donc, ma plus grosse erreur a été vraiment... Puis, mais de commencer un aussi gros chantier sans verbaliser vers où était ma vision. Puis, honnêtement, j'aurais pas été capable de la verbaliser à ce moment-là, mais j'aurais pu dire, OK, ma première étape, c'est ça. Ma deuxième étape, après, dénommer étape par étape. Mais là, j'ai vraiment juste tout attaqué les chantiers de front. Puis, ça a fait...
C'est la preuve que c'est un apprentissage constant.
Oui, complètement. Je ne referais pas ça de cette façon-là. Puis, une deuxième erreur que j'ai faite, c'est penser que tout le monde allait aimer ça. J'étais convaincue, OK?
Tellement convaincue.
Ah ouais. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, les gens vont avoir de la responsabilisation, ça va amener de la liberté d'action. J'étais convaincue que tout le monde allait embarquer et qu'au contraire, j'avais pas vu. En fait, j'ai même pas pris le temps de voir s'il y a des gens qui allaient être contre ça. Puis qu'elle n'allait pas se reconnaître là-dedans. puis qui était peut-être en amour avec la façon de gérer, puis qui aimait peut-être ça, moi, comme directrice générale. C'est même si moi, j'étais pas bien. Que c'est comme, je te dirais, mes deux... que j'ai appris beaucoup par la suite, par la perte de personnes clés que j'ai dans ma vie personnelle et professionnelle. Voilà.
OK, donc après les mauvais coups, les bons coups, c'est quoi les aspects les plus positifs ou les coups que tu t'es dit, ça, c'était vraiment une bonne façon de faire ou une bonne façon de fonctionner pour que la transition aille bien?
Tu sais, les quick wins, là, je te dirais que j'aurais fait comme, oh mon Dieu, j'aurais tellement fait ça avant. Entre autres, le jour où j'ai démoli mon bureau de la direction, tu sais, pris mon bureau puis le mettre avec tout le monde dans le coworking, ça, je l'aurais fait jour zéro avoir su. Ça allait faire tout un changement dans la façon que les gens ont commencé à me percevoir, dans la façon qu'ils ont interagi avec moi. J'avais plus autant de gens qui venaient me voir pour pitcher leur petit singe. Je voyais qu'ils m'impliquaient dans leur résolution de problèmes, mais plus autant dans le quotidien. Il y avait vraiment une résolution de problèmes qui ont commencé à prendre sur eux, à se responsabiliser énormément.
Fait que t'avais l'impression qu'ils venaient moins te voir quand c'était complètement la panique.
Ah ouais. Vraiment. Puis je te jure, j'étais comme, oh mon Dieu, avoir su. Tellement. L'importance des symboles. Ça, je te dirais un bon coup, là, c'est l'importance des symboles.
C'est fou, hein, parce que c'est juste des quatre murs.
Quatre murs, puis tu sais, comme des vitres, là, tu sais, à la limite. T'sais, ma porte n'était jamais fermée. Puis en plus, mon bureau était, je le partageais avec mon adjointe, puis mon père. Tu sais, c'était pas à ce point comme.
Non, gros. C'était pas la porte fermée, c'était
non,
pas retirée non plus, c'était proche.
Mais ça a été un gros symbole que j'ai fait comme, OK, ça a fait vraiment... Tu sais, ça, c'était un quick win, j'aurais gagné. Un bon coup que j'ai... Puis ça, j'en parle, puis c'est le dernier chapitre du livre, mais l'aspect santé, je me suis rendu compte que... Tu sais, c'est con, puis c'est mon air de la guerre, le yoga, là, le matin. Puis ils le savent le lundi matin, puis Andréane, elle sait mes frustrations quand je suis comme, oh, les gens, il faut qu'ils participent au yoga!
Mais obligatoire.
Puis le yoga, ça a été, puis personne ne le comprend directement quand il fait, mais moi, quand je regarde les filles qui sont là depuis, tu sais, 3 ans, je vois leur gestion du stress, leur responsabilisation, puis la confiance qu'ils ont pris en eux, parce que souvent, ce changement-là, puis c'est con, mais le changement sur la santé, je me suis rendu compte que vient énormément responsabiliser la personne. Par exemple, il y en a qui ont commencé à bouger ensemble, qui ont eu... Il y a eu vraiment un mouvement autour de ça qui était un projet, tu sais, parlons pas de job, parlons de bien-être. Et ça a été un... Pour moi, ça a été un des meilleurs coups dans toute l'entreprise responsabilisée que je referais puis que je dirais à tout le monde de mettez en place quelque chose qui est obligatoire. Laissez pas les gens comme optionnels, parce qu'en réalité, il y aurait moi qui triple le yoga, Noémie parce qu'elle aime ça, puis tu sais, comme Catherine S parce qu'elle est sportive.
Moi, je me lèverais pas tous les lundis matin, si c'était obligatoire.
Mais en réalité, ça crée un esprit d'équipe. En réalité, là, chaque lundi, je crée un team building naturel, mais qui a un impact sur l'esprit d'équipe et sur le bien-être des kaboumiennes. Que pour moi, ça a été vraiment un des éléments simples. Tu sais, mes deux quick wins, puis je te dirais des bons coups que j'aurais jamais espéré. Moi, je pensais pas que ça allait autant réduire mon taux de roulement. Je pensais pas que, tu sais, aujourd'hui, on a des candidatures qui rentrent spontanément chaque semaine, puis on sait même plus quoi en faire, puis on est comme, merde, faudrait créer une croissance pour embaucher tout ce monde-là qui nous sollicite chaque semaine. Ça a été un bon coup.
C'était pas des buts, mais c'est comme des effets qui sont arrivés
ouais,
après.
Mais c'est pas un bon coup parce que c'est pas comme... Tu sais, j'ai pas...
C'est pas quelque chose qu'on a fait.
Exactement, mais les effets sont là. Puis ça, pour moi, ça a été une grosse découverte de l'entreprise responsabilisée que personne parlait. Tu sais, moi, la pénurie de main-d'œuvre, je l'ai associée. J'ai fait comme, oh wow, entreprise responsabilisée, pénurie de main-d'œuvre. Il y a tellement quelque chose, mais si tu le fais juste pour la pénurie de main-d'œuvre, je pense pas que c'est la bonne raison. Mais clairement, c'est un symptôme positif.
Donc, pour parler un peu des sujets abordés dans le livre, je décide de faire un segment « Réponds-moi en 30 secondes ». Donc,
okay.
Nous avons un chronomètre sur la table que Catherine peut voir. Je vais y nommer des mots. C'est des concepts qui sont abordés dans le livre. Elle doit me répondre en 30 secondes ou moins, si tu es capable.
D'accord.
Donc, allons-y avec le premier. Chapeau.
Chapeau. C'est un mot que j'ai utilisé pour segmenter les postes et... Au lieu que les gens s'approprient le poste, ils s'approprient le chapeau et se prêtent le chapeau. Donc, le chapeau te va si la tâche te va. C'est un peu le concept de dire « Travaillons dans nos forces, travaillons dans nos talents. Si le chapeau me fait, je le prends. Mais si je suis en vacances, je le passe à quelqu'un. » Donc, le chapeau, c'est vraiment les rôles et responsabilités sont segmentés en petites bouchées. Un chapeau et une personne peut avoir plein de chapeaux.
Oh mon Dieu, 30 secondes pile?
Yeah!
Moi, j'ai fait ça toute ta vie. OK, on va passer au deuxième mot. Cellule.
Cellule, c'est un groupe de travail, une équipe qui est entre 3 à 12 personnes. Ils ont un objectif donc commun qui pourrait être, par exemple, le marketing, donc de faire en sorte qu'on ait des opportunités d'affaires qui viennent en fonction de nos valeurs, de notre mission, de notre vision. Et cette cellule-là est autonome et responsable dans les champs d'action qu'elles ont.
Super! Encore réussi pour les 30 secondes. Allons-y avec l'avant-dernier mot, livrable.
Livrable, au lieu de gérer le temps, donc de demander aux gens de faire des heures, on leur demande de faire des livrables. Donc, c'est un bloc de 3 heures. Un livrable égale 3 heures à valeur ajoutée. C'est un ensemble de tâches qui se ressemblent et que si la personne n'est pas dérangée, puis elle serait genre tout seule dans son sous-sol, pas de réseau qui rentre, elle le ferait en 3 heures. Donc, c'est vraiment de segmenter la semaine puis demander aux gens de faire des livrables qui sont mesurables plutôt que de demander des heures qui ne sont pas nécessairement en lien avec la valeur créée.
Parfait! Et finalement, peut-être un peu plus difficile à expliquer en 30 secondes, on va essayer.
OK.
La rémunération autonome.
La rémunération autonome, c'est un concept qui est basé sur le fait que les gens comprennent la rémunération, c'est quoi. On leur donne les outils pour qu'ils soient capables de s'auto-évaluer. Puis, à partir de là, en petite équipe, ils se déterminent leur salaire basé sur leurs compétences qui sont reconnues par l'ensemble de leurs pairs. Il ne peut pas avoir de surprise puis d'abus. Pourquoi? Parce que tout le monde est communément responsable sur un outil qu'ils ont tous voté.
Super!
Oui, oh, je me sens comme un marathon.
Je me suis amusée avec un autre segment. Dans le fond, je vais dire des phrases communes que les gens peuvent dire parce qu'ils se disent « Moi, ça ne marchera jamais, faire l'entreprise
responsabilisée. » Jamais, oui.
Il y a tout plein de raisons. Donc, je te demande, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent?
OK.
Donc, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « C'est facile, vous êtes seulement 9 dans votre équipe, ça ne pourrait jamais fonctionner dans une plus grande entreprise. »
Mon concept est basé, l'entreprise responsabilisée, je me suis inspirée de très grandes entreprises qui ont plus de centaines d'employés jusqu'à des milliers. Donc, au contraire, c'est beaucoup plus difficile de faire, puis je ne le recommande même pas à le faire dans une équipe de 9 personnes parce que les équipes de travail se recoupent beaucoup trop. On n'a pas assez de talent par rapport à une grande entreprise.
On le voit à l'interne.
Oui.
Finalement, c'est la
ça crée un chaos tout le temps.
Qui se retrouve à être dans chaque cellule, on ne sait plus qui fait quoi.
Trop de chapeaux, puis il y a un peu d'ingérence quand on est trop petit. Exactement. Moi, je dirais le chiffre magique pour commencer, 20. 20 personnes minimum. Puis quand t'es 1500 personnes, c'est le fun, tu peux faire des équipes super dynamiques.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « Ah, mais on sait bien, vous avez une entreprise de service. Nous, on est dans le manufacturier ou on est dans le commerce de détail. Ça pourrait jamais fonctionner dans notre industrie. »
C'est drôle. Encore une fois, je réponds la même chose. Semco, qui est l'entreprise pionnière qui a fait vraiment, tu sais... Entreprise libérée, ils n'appellent pas ça comme ça, mais dans leur livre « À contre-courant », Ricardo Semler, lui, il a vraiment expliqué comment il a vraiment réparti le pouvoir. C'est une entreprise manufacturière avec des soudeurs au Brésil. C'est pas des gens tout éduqués. Donc, ils ont réussi à le faire. Puis, il y a des entreprises québécoises comme Régitex qui sont dans le manufacturier en Beauce, qui le font. Il y a des gens en construction, donc... Il y en a dans tous les secteurs d'activité, puis au contraire, c'est beaucoup moins dans les services qu'il y en a parce que, comme service, on aime tellement ça avoir des seniors puis des juniors. Tu sais, dans le monde des avocats, moi, ma meilleure amie est avocate, puis elle me dit « Oh mon Dieu, ça n'arrivera jamais dans le droit parce qu'on aime tellement ça avoir... »
Les hiérarchies sont bien ancrées, oui. Là, même aussi dans le monde de la consultation.
Ah, oh, complètement.
Un junior avec un senior sur un projet.
Puis le junior, c'est « Ferme ta bouche, et laisse-moi parler comme senior », même si c'est tout le junior qui a fait le travail. Que... Non, la hiérarchie est très... Puis au contraire, moi, j'arrête pas de dire à mes clients puis à ceux qui me disent ça, moi, mes filles, là, ils ont étudié, ils ont toutes des baccalauréats. Okay? Leur rêve, là, ils se sont fait dire au HEC, à Polytechnique puis à l'ETS qu'ils allaient devenir des gestionnaires, des directeurs puis qu'ils allaient être les kingpins. Que quand moi, j'ai essayé de leur vendre qu'ils allaient genre, travailler dans une entreprise qui n'allait pas de titre puis qu'ils n'allaient pas avoir d'avancement vertical, ça vient quand même...
C'est au début, tu peux te poser des questions,
oui.
C'est pas toujours...
C'est pas toujours aussi clair que... Moi, je trouve qu'une entreprise manufacturière puis, ou en construction, dans distribution, les employés, ils ont tout à gagner. Tandis que souvent, dans une entreprise, souvent, ceux qui sont plus résistants, c'est ceux qui sont les plus diplômés.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « ça va être le chaos, il faudrait que tout le monde pense exactement de la même façon pour que ça fonctionne, comment ça peut fonctionner avec une équipe, avec plein de gens différents? »
C'est tellement ça la beauté de l'intelligence collective. Le chaos, il est là quand t'es pas organisé. Tu te lances pas là-dedans, dans une entreprise responsabiliser si tu comprends même pas ton propre modèle d'affaires.
C'est donc, ça, je pense que c'est pour faire la différence entre une structure hiérarchique et de l'organisation. Tu sais, c'est pas, on fait pas n'importe quoi.
Non, tu sais, l'entreprise responsabilisée, il y a une structure de réunion, il y a des objectifs, il y a des comptes rendus, on doit livrer de la valeur à nos clients. On est mesuré, on mesure notre satisfaction client, on mesure nos budgets. Il y a plein de choses, il y a plein d'indicateurs de performance, il y a de la gestion de la performance dans une entreprise responsabilisée. Ça veut pas dire que tu es libéré, que tu arrêtes de mesurer les choses.
C'est d'autant plus important parce que c'est ça qui devient la structure.
Ben oui, puis il faut se donner un objectif smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel pour qu'une équipe travaille dans le même sens. Puis souvent, dans les entreprises hiérarchiques, ben on met un directeur puis on pense qu'il gère tout ça. Puis en réalité, c'est très peu d'entreprises que c'est aussi structuré, même s'ils ont une structure hiérarchique.
Et finalement, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « Moi, je pense que mes employés vont abuser de leur liberté, ils vont arrêter de travailler.
» Ben, c'est quand même triste. On entend souvent. Mais c'est quand même triste de penser que l'humain est à ce point fainéant. Puis c'est quand même triste de penser, puis souvent ils vont dire ça par rapport à la génération Y, là, c'est quand même triste qu'ils pensent que les milléniaux veulent vraiment rien foutre de leur vie. Les gens, là, vous avez deux philosophies. T'as ceux qui pensent que les gens sont des bons à rien, puis t'as ceux qui pensent que les gens sont là pour contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Puis moi, je suis de cette philosophie-là. Que si toi, tu penses que tes employés sont des bons à rien, peut-être que l'entreprise responsabilisée, les valeurs vont même pas te coller à la peau. Mais si tu penses, par contre, t'as peur, ça peut être une peur. Ça veut pas dire que... admettons que tu fais juste dire, est-ce que les gens vont réellement travailler? Sache que justement, on met en place une structure, de la gestion de la performance. Puis au contraire, les gens, moi, ce que j'ai vu, c'est ce qui se dépasse beaucoup plus. D'ailleurs, tu sais, la preuve chez nous, c'est quand même un gain de performance de 50%. Donc, on était 12 quand on a commencé, puis on est rendu 9.
Ça, c'est remarquable pour la même quantité, sinon plus, de travail.
Exactement. Puis avec un service à la clientèle, tu sais, notre service à la clientèle a augmenté. Donc, tu sais, en réalité, les gens, ils ont envie de se dépasser s'ils pensent qu'ils peuvent avoir un impact. Les gens se dépassent pas quand ils pensent qu'ils peuvent pas avoir un impact. Tu sais, souvent, moi, je me souviens, puis on a travaillé, toi et moi, dans une même entreprise, dans le commerce au détail. Ben, à un moment donné, je me suis découragée à donner mes idées. Pourquoi? Parce qu'on les prenait jamais.
C'est vrai.
Que j'étais démotivée.
C'est beaucoup, c'est comme ça que c'est fait.
C'est comme ça que c'est fait.
C'est toujours été fait de même.
Tu sais, ça fait 200 ans qu'on existe, là. Bon, voilà. Puis moi, pourtant, j'étais une personne qui était tellement dévouée au départ. Puis en bout de ligne, ça m'a fait tellement mal au cœur de quitter cette organisation-là parce que je l'aimais d'amour. Mais j'avais aucune progression possible. Puis en réalité, si on donne, tu sais, l'entreprise de responsabiliser, c'est quoi? C'est travailler d'un force et faiblesse puis donner la chance aux gens de se développer.
Par une autre façon que monter dans un poste.
Exactement. Puis est-ce que ça veut dire que les salaires, tu peux pas augmenter? Pas du tout. Tu sais, c'est pas du communiste, l'entreprise responsable. Les gens, ils pensent que c'est tout le monde égaux, on vote, puis un vote, deux votes.
C'est vraiment un mythe, ça.
C'est vraiment un mythe parce que les gens, ils pensent comme tout le monde, on va avoir le même salaire. C'est pas du communisme. C'est juste une façon que le pouvoir est réparti différemment.
On est rendu à la question, tout le monde en parle. La question qui tue. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui sont intéressés par la responsabilisation de leur entreprise, lequel ce serait?
Faire les tests psychométriques de l'ensemble de leur équipe.
Intéressant.
Tout employé confondu. Oui, je dirais ça parce que on dit que les deux principes d'entreprise responsabilisée, c'est un, d'utiliser les gens dans leur force et leur talent, juste leur force et leur talent, jamais dans leur faiblesse, puis les utiliser, en fait, leur permettre d'utiliser leur plein potentiel, donc tout le développement professionnel et personnel à travers l'entreprise, de leur donner la chance, pas tout le monde qui va atteindre le même sommet, mais de donner la chance égale à tous. Puis je pense que la première chose pour que les gens embarquent là-dedans, c'est faut que tu connaisses tes employés, puis tes employés doivent se connaître. Puis je pense que l'outil d'un test psychométrique permet d'avoir une discussion sur les forces et les talents. Puis déjà de mettre les gens, je te dirais, le jour qu'on a commencé à faire les forces, nous, entre nous, puis dire comme « Ah, toi, t'es désorganisé, mais t'es capable de sauter rapidement sur un projet, c'est très utile en cas d'urgence. »
Après, superposer les profils, c'est ça qui est
exactement, exact.
À comparer les profils, donc ce qui est complémentaire.
Exact. Au lieu de voir la différence, quand tu commences à parler de force, bien là, les gens voient « Ah, deux personnes que tu penserais jamais qui s'entendraient s'entendent super bien. » Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement complémentaires au lieu d'être pareils. Puis on vient faire des mix d'équipes. Puis pourquoi je dirais ça? C'est parce que faut que tes équipes soient équilibrées. On s'en est rendu compte nous-mêmes. Deux personnes désorganisées ensemble, ça va
ça
pas bien.
Ça
marche pas, pas tout. Puis deux personnes trop organisées, ça marche pas parce que ça manque d'agilité. Donc, le mix des profils dans une équipe, donc, tu sais, les fameuses cellules, tu veux commencer par faire ça, commence par faire tes profils psychométriques. Puis pas juste le test des couleurs. Oui, tu peux faire le test des couleurs. Oui, tu peux faire le test des talents, mais il faut vraiment un profil psychométrique pour dire comme la personnalité de la personne, son naturel, là, quand elle est pas dans, elle a pas son outfit de bureau, elle ressemble à quoi. Puis ça, je trouve que ça nous permet de voir les gens sous un autre angle. Donc, ça, puis de laisser son ego à la porte comme entrepreneur. Peut-être d'aller voir un psy si nécessaire.
Ça, c'est la dernière. Mais en fait, ça pourrait être aussi la non, première ça, étape.
Non, je pense que c'est la première étape. Les gens qui trouvent ça dérangeant puis qui ont une relation bizarre au contrôle puis au pouvoir puis à l'argent, ça se règle pas avec un consultant, ça se règle avec un psy, tu sais. Ça, c'est en dehors.
Le conseil santé mentale pour oui. terminer, parce que c'est super important oui. En entrepreneuriat.
Puis l'idée, c'est d'être un peu moins foqué qu'hier. Donc, s'entourer.
C'est ça, quand on dit, bon, soyons un peu moins foqués que la veille. C'est ce qui conclut l'entrevue aujourd'hui. Comment t'as trouvé ça d'être de l'autre côté de la chaise?
Nerveuse, mais j'ai vraiment aimé ça.
Ouais, moi aussi, vraiment. C'est différent de ne pas être spectatrice dans le coin de la pièce, mais de poser une question.
J'ai vraiment aimé ça. Je rejouerais ça.
Super, bon, mais merci pour ton temps.
Merci.
C'est ce qui conclut le premier épisode hors série de notre balado. On espère que ça vous a donné envie de vous procurer le cookbook pour en apprendre plus sur l'entreprise responsabilisée. Vraiment approfondir tous les concepts dont on a discuté pendant cette entrevue. Donc, la semaine prochaine, retour à la programmation régulière, nous recevons Michaël Jean de la microbrasserie Bockel. Vous allez découvrir comment il est passé d'un travail en ingénierie à finalement brasser de la bière. Et il ne fait pas juste de la bière régulière, il fait aussi de la bière sans alcool. Donc, vous allez pouvoir voir comment il s'est lancé dans ce gros projet et pourquoi il a eu envie de faire de la bière sans alcool, un marché qui était et qui reste encore aujourd'hui très peu exploité. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!